Le troisième fil, c'est le fil blanc. Et ce fil blanc nous parle de sainteté. La sainteté de Dieu. Et la notion de sainteté est rattachée à la présence divine, au contact divin. C'est une caractéristique de la divinité de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous allons tracer un parallèle entre la sanctification et la sainteté. Parce que c'est deux notions qui se confondent un peu. Ces deux notions, on a de la peine souvent à faire la part des choses. Parce que ce soit la sanctification, on dit c'est une mise à part. Faire la sainteté, on dit c'est une consécration, etc. Et on se demande quelles sont les nuances, quelle est la nuance vraiment qu'il peut avoir entre la sanctification et la sainteté. Nous allons parcourir un peu ça. Ça va nous permettre de bien comprendre un peu cette notion du fil blanc. Vous savez, la parole de Dieu nous décrit l'atmosphère qui est dans les cieux. Jésus-Christ, notre Seigneur, à la demande des apôtres, a enseigné une prière. Ce qu'on appelle la prière sacerdotale, ce qu'on appelle le Notre Père. Et il dit une chose, et il dit, nous commençons cette prière par Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Dans d'autres versions, c'est ton nom est saint, en fait. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et quand nous voyons, que ce soit dans Apocalypse, dans Zacharie ou dans Ézéchiel, ces prophètes qui ont eu le privilège d'avoir la vision de ce qui se passe dans les cieux, il est décrit vraiment une atmosphère particulière autour du trône du Père, la position des chérubins qui sont prosternés et qui disent « Saint, Saint, Saint », même à longueur de journée. On peut penser, ce n'est pas le nom, une façon d'appeler Dieu, leur maître. Moi, en poursuivant les enseignements, moi j'ai compris que c'était, ils avaient un rôle d'entretenir et de maintenir cette atmosphère de sainteté autour du Père. En disant « Saint, Saint, Saint », ils font un constat de sainteté. Et ils appellent à la sainteté dans l'environnement de Dieu. Et cette sainteté-là, c'est un aspect dont l'Éternel Dieu, notre Père, en quelque sorte nous fait cadeau. Vous savez, quand le buisson ardent dans Exode, quand nous lisons comment il est apparu à Moïse, et on dit, il a vu un buisson ardent. Il s'est approché du buisson ardent. Et une voix dans le buisson ardent lui a dit, ôte tes souliers, avant de continuer d'avancer d'ici. Ôte tes souliers, car la terre, le sol sur lequel tu es, est une terre sainte. C'est relatif à la présence de Dieu. Là où Dieu se déplace, là où Dieu se déporte, il se déporte avec son atmosphère de sainteté. Et tout ce qui doit connecter avec lui rentre dans une atmosphère de sainteté, donc doit être saint pour que ça demeure saint. Alléluia. Et Dieu a toujours dit tout le long de la Bible, tout le long de la marche du peuple, tout le long de... Et même notre Seigneur Jésus a dit, soyez saints comme votre Père est saint. Et c'est une dimension de sainteté que dans sa souveraineté, Dieu permet. En traçant le parallèle entre sanctification et sainteté, nous allons comprendre cela. Nous avons vu que la sanctification était liée au sang de Jésus, à ce qui se passait à la croix, à la notion du rachat. Donc, c'est un processus qui permet au monde entier, à la création tout entière, d'être désormais dans une condition de réserve à Dieu. C'est-à-dire que, avec le sang de l'agneau, on passe de la mort à la vie, on passe du péché, de la condition de péché à la condition de droiture, à la condition de non-péché. Et ça nous donne la possibilité d'être désormais réconciliés avec le Père par rapport à la faute qui nous avait éloignés du Père, le péché du jardin d'Éden. Donc, la sanctification est une disponibilité qui te met dans une condition et te donne une opportunité désormais de te réconcilier avec l'Éternel. Et cette disposition est faite pour tous. Mais en réalité, cette disposition est là, de sanctification, mais n'est pas utilisée par tout le monde. Tant que les gens ne sont pas allés à la croix, se rendre compte de ce salut qui est déposé à la croix, ils ne profitent pas de cette opportunité. Amen. Donc, c'est une réserve, c'est une opportunité qui leur est donnée, qui nous sont données à nous-mêmes. Maintenant, la sainteté vient à quel moment? La sainteté arrive maintenant dans le aller à la présence de Dieu. C'est-à-dire, l'opportunité t'est donnée de te réconcilier avec le Père. L'opportunité t'est donnée désormais de ne plus être un pécheur, d'être lavé de ses péchés, donc de pouvoir, au travers du sang de Christ, monter vers la présence du Père. Parce qu'à la croix du calvaire, quand Jésus est mort, ce que l'on nous dit, on dit que le voile du temple s'est déchiré. Ça s'est fendu dans le devant. Ce voile était le dispositif qui devait limiter, qui devait empêcher à l'homme pécheur, c'est-à-dire l'homme de l'Ancien Testament, d'avoir accès au lieu très saint, c'est-à-dire au lieu de la sainteté du Père. Amen. Seul le sacrificateur avait le droit, une fois par an, de pouvoir traverser ce voile. Et Dieu avait pris des dispositions diverses, notamment celui de la tiare de sainteté, pour qu'il puisse traverser. C'est-à-dire, il l'avait souverainement défini qu'à un moment donné de l'année, il le revêtait de cette tiare de sainteté afin de lui conférer une nature sainte pour arriver jusqu'à lui. Donc, mais Jésus est venu et ce voile a été déchiré. Donc, la porte a été ouverte désormais pour pouvoir arriver. Donc, dans sa souveraineté, Dieu a décidé que ça fait partie du cadeau désormais. Donc, une opportunité pour qu'on vienne jusqu'à lui. Amen. Parce que la croix donne l'opportunité, donne la disposition de la réconciliation avec Dieu, la disposition d'être désormais consacré à Dieu, mis encore en réserve pour Dieu. Mais la sainteté est une disposition d'aller en sa présence. Donc, il faut avancer vers la présence de Dieu. Il faut avancer vers la connexion avec sa présence. C'est une disposition de main tendue. C'est une disposition que le Seigneur offre pour ceux qui montent jusqu'à eux, traverser le tabernacle, traverser le parvis, traverser le lieu saint, entrer dans le lieu très saint, là où Dieu réside, là où il établit sa présence. Donc, aller enfin pour un partenariat. On n'arrive pas là-bas juste comme ça pour les beaux yeux. On arrive à la présence de Dieu pour épouser les plans du Père, pour épouser les desseins du cœur de Dieu. Amen. Donc, la dimension de la sainteté est une dimension de... C'est une dimension que le Seigneur offre, met en place pour ceux qui veulent s'engager avec lui dans l'accomplissement de ses desseins. C'est pour ça que le fil blanc sert de fabrication des tissus, des revêtements, tels que le vêtement de louange, qui est un vêtement de service. C'est le vêtement avec lequel on revêtait les sacrificateurs, que ce soit le caleçon de fin lin blanc, que ce soit la robe de louange qui était en blanc. C'est le vêtement du sacerdoce. Et lorsque nous avançons, au-delà de ce vêtement de louange, nous voyons aussi, dans Apocalypse, nous allons prendre deux ou trois versets qui vont nous montrer la perspective de ce que Dieu veut faire. Dans l'accomplissement de son plan divin, il a donné un rôle. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu établir le royaume de Dieu et accomplir quelque chose pour le Père. Les desseins du Père pour pouvoir ramener toutes choses comme à l'origine, afin que le règne de Père soit complet et afin que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Ça veut dire que désormais dans la terre qui sera remise à l'état d'origine, l'adoration du Père sera faite comme on nous a fait voir dans les cieux. Amen. Donc, beaucoup de choses, Christ est venu accomplir, jouer un rôle par rapport à l'accomplissement de ce royaume des cieux. Il est allé s'asseoir à la droite du Père, au lieu du trône. Nous savons que d'où il viendra juger les vivants et les morts. Il viendra pour un temps de jugement. Et pour moi, il est important de noter ce que Paul nous dit aux Hébreux lorsqu'il leur explique un peu la position du Messie. Ils attendent toujours le Messie. Paul essaie de leur faire comprendre que ce Messie est déjà venu. Il reviendra pour d'autres buts. Il est venu établir le royaume des cieux. Il reviendra pour d'autres buts. Et dans ce moment, il nous appelle à un partenariat avec lui dans ces missions-là. Mais ce partenariat-là, nous tous, nous devons monter en Jésus-Christ vers le Père d'abord pour obtenir notre revêtement, nos missions, nos grades, le don de grâce pour l'accomplissement. Avant d'aller accomplir cela, chacun a un rôle à jouer dans le plan divin du Père. La sainteté rattache au plan du Père. Amen. Et Paul dit aux Hébreux ceci, en Hébreux 7, il leur dit ceci à son verset 25. C'est aussi pour cela qu'il, en parlant de Jésus-Christ, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Dans la sanctification, Jésus-Christ a déjà sauvé. Jésus-Christ a déjà donné la vie. Jésus-Christ a déjà donné la disposition pour que tu sois libre. Que tu sois délivré du péché. Et il te dit désormais, bon, il y a une disposition, tu peux t'arrêter là si tu veux. Tu seras enfant de Dieu, tu seras dans le royaume. Si tu confesses, tu vas entrer dans le royaume. Mais si tu veux encore rester simplement là, tu seras enfant de Dieu. Mais il y a une autre dimension qui est celui d'aller vers le Père et de rentrer vraiment dans la plénitude de l'accomplissement. Amen. Et il va s'asseoir à la droite de Dieu, comme je disais. Et le verset 6, Hébreux nous explique que c'est assis à ce lieu qu'il peut parfaitement encore sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Jésus-Christ, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Donc l'intercession que Jésus-Christ fait assis à la droite de Dieu, ce n'est pas une intercession pour les pécheurs. Ce n'est pas une intercession pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils ont été sauvés à la croix. Il est assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour ceux qui décident qu'étant sanctifiés, ils vont aller vers la sainteté. Ils vont entrer dans le partenariat de Père. Ils vont aller dans la présence de Père pour être en partenariat avec lui. Ceux-là qui s'approchent de Dieu de cette façon bénéficient d'une intercession nouvelle. Parce que souvenez-vous d'une chose, merci Saint-Esprit. Jésus-Christ s'adresse à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre a déjà accepté l'appel de Jésus. Jésus lui a dit, viens, je ferai de toi des pêcheurs d'hommes. Il a laissé ce qu'il faisait. Il était déjà disciple de Jésus. Il marchait déjà derrière Jésus. Jésus avait même déjà fait de lui un apôtre. Il avait même déjà reçu par l'Esprit Saint la proclamation, la prophétie selon laquelle Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qui avait fait de lui la perspective d'être celui à qui on allait confier les clés. C'est-à-dire qu'il avait déjà libéré la parole du roc sur lequel le royaume de Dieu serait bâti. Alléluia. Dans cette reconnaissance que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Donc, mais Paul marchait avec Jésus. Et Jésus-Christ lui dit, Simon Pierre, parce que quand il commençait à appeler Pierre, Simon Pierre, c'est que Simon avait manifesté une nature humaine très très. Il a dit, Simon Pierre, Satan t'a criblé aux yeux du Père. Simon Père, Satan t'a criblé. Il t'a criblé. Mais moi j'ai prié. J'ai intercédé en ta faveur. J'ai intercédé en ta faveur pour que tu sois, pour que une fois affermi, tu affermisses tes frères. Parce que je compte sur toi. Je compte sur le partenariat que nous allons faire ensemble. Je compte sur le rôle que tu vas jouer. Je compte sur l'engagement que tu prends là pour pouvoir paître mes brebis et faire des choses avec moi. C'est dans ce contexte-là que Jésus intercède pour les personnes. Vous allez me dire, c'était avant qu'il n'aille à la croix. Mais bien sûr, pour ceux qui s'étaient choisis avant, ils étaient dans une disposition particulière. Eux, ils avaient déjà franchi cette étape puisqu'ils avaient accepté la mission avec Christ. Les autres allaient passer par la croix puisque eux, ils n'étaient pas concernés. Nous qui venons aujourd'hui, nous acceptons d'abord la croix. Alléluia. Donc, c'était un dispositif. Jésus-Christ venait pour nous enseigner le royaume. Amen. Donc, ce dispositif-là donne la latitude de la sainteté dans la notion du partenariat avec le Père, avec Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand nous regardons dans Apocalypse, qui est la vision de Jean, pour les choses qui se passent de façon surnaturelle, de façon spirituelle et pas naturelle, nous voyons dans Apocalypse 19, 14, qu'il nous est décrit une armée qui œuvre derrière le Christ. Et ce qui est dit, c'est que les armées qui sont dans les cieux, dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc. Le revêtement blanc, c'est le revêtement de l'armée qui marche derrière le Christ pour les actions de jugement. Amen. Pour les actions de jugement. Et les actions de jugement, il ne faut pas comprendre seulement que c'est venu couper la tête, etc. Non, Jésus-Christ viendra. Il a une mission du Père à accomplir. Il viendra juger les vivants et les morts. Il viendra pour établir les actions de Dieu. C'est le rétablissement du plan divin. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à marcher dans ce processus de rétablissement du plan divin avec le Père. Donc, quand nous allons jusqu'au Père dans sa présence, nous recevons la grâce pour accomplir cela. Nous recevons, même nos lettres de créance, nous recevons le sens de notre appel. Nous recevons cela et nous marchons derrière Christ pour accomplir les uns et les autres ce qu'ils ont reçu dans le but d'établir le jugement de Dieu derrière Jésus-Christ. Nous sommes son armée. Alléluia. Et ceux-là sont revêtus de blanc. Regardez encore d'autres peuples revêtus de robes blanches. Dans Apocalypse 6, 11, il dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, certains nombres de prêtres, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que ce fût complet le nombre des compagnons de service. Alléluia. Ça parle déjà de service, de ceux qui vont servir. Ici, si vous lisez tout le chapitre, vous comprendrez qu'on parle des témoins, des martyrs, de ceux qui sont morts déjà, avant même le temps de jugement. Nous-mêmes, à un moment, nous ferons partie de cela, habillés comme ça pour ceux qui veulent marcher avec l'Éternel. Parce qu'il lui a été demandé, mais quand est-ce que ça vient? Quand est-ce que tu leur règles leur compte à ceux-là? On dit, soyez patients. Attendez, le temps vient. En attendant, je vous revais de vêtements blancs. Parce que vous faites déjà partie de cette armée qui, avec moi, devons rétablir le plan divin. Accomplir cette œuvre de jugement. Alléluia. Dans Apocalypse 7, 13, il est encore décrit une catégorie revêtue de robes blanches. Alléluia. Ces gens qui demandent au vieillard qui l'accompagne dans sa vision, là, il dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ou d'où viennent-ils? Et Jean lui dit, mon Seigneur, toi tu le sais, moi je ne le sais pas, je vois aussi comme toi. Et il lui donne alors l'explication. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Quand vous continuez de lire, il dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Amen. En robe blanche, on est devant le trône de Dieu. Et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Alléluia. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux vives. Et Dieu essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux. Amen, amen, amen. Mais moi je reviens ici. Pour ceux qui sont dans le service devant le trône de Dieu, ils sont revêtus de vêtements blancs. Et ils sont venus de la tribulation. La tribulation, c'est quoi? C'est cette vie du monde. La parole de Dieu nous dit que nous recevrons tout, beaucoup plus de choses que nous avons perdues, mais avec tribulation. Pourquoi? Parce que nous sommes encore en marche dans ce monde. Donc la tribulation, c'est ce monde, avec tout ce que ça comporte. Ils viennent d'être vus, mais ils ont le privilège d'avoir lavé leur robe. Quand nous allons à Christ dans la sanctification, amen, nous avons le sang du Christ pour nous racheter. Nous lavons nos robes dans le sang du Christ. Et le sang du Christ blanchit nos robes. Alléluia. Le sang du Christ blanchit nos robes afin que nous rentrons dans le service. Afin que nous soyons devant le trône de Dieu, le servant nuit et jour. Amen. Donc, la notion du blanc, c'est cette notion de pureté, c'est cette notion de sainteté que nous donne le Père pour le servir. On va l'acquérir devant le trône de Dieu. Alléluia. En rentrant dans l'exécution de son plan divin. Pas de nos plans, mais du plan de Dieu pour que son règne soit rétabli sur la terre. Amen, amen, amen. Voilà la notion du fil blanc. Donc nous avons trois fils, le fil rouge, le fil blanc et le fil bleu qui sont utilisés pour façonner nos cordages, pour tisser ces étoffes, pour notre revêtement. Alléluia. Et avec ces trois fils, Dieu nous demande de tisser les cordes. Il nous demande de façonner le cordage de notre tente. Alléluia. De façonner les cordages de notre tente. Maintenant que nous avons une bonne notion des fils que nous allons utiliser, comprenons le sens de cordage, le sens spirituel. Au début, nous avons expliqué sur le sens naturel, physique, ce qu'étaient les cordes, ce qui nous a amené à étudier les fils, la nature des fils à utiliser. Maintenant, les cordages. Quand Dieu dit de faire les cordages, et que veut dire une corde? Sur le plan spirituel, moi, ça m'a vraiment étonné. Moi, de toute façon, moi, je suis toujours baba quand je me place et que je dis je cherche la révélation de la parole de Dieu. C'est toujours étonnant. Quand on étudie corde, quelque peu le cordage, sur le plan spirituel, ça donne une explication. Ça vient d'un mot profond qui a un large sens et qui veut dire rester seul. Rester seul, demeurer seul, maintenir en vie, exceller, avoir une prééminence, en faire plus. Ça me rappelle quelque chose là. Ce sont des mots que nous avons utilisés quand on travaillait la gloire de Dieu. On vous dit ici que c'est dans la corde. Alléluia. Et la corde qu'on tisse à trois fils, avec des fils et que l'on torsade, si nous utilisons les fils que Dieu nous, dont l'Esprit nous a parlé là, et que nous tissons les cordes avec, en les tordant comme ça, Nous sommes en train de tordre le cou à tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Et ce geste de fabriquer une corde, ça se traduit par lutter divinement. Ôter le pervers, le faux, l'artificieux, c'est lutter divinement. J'ai dit, waouh! Parce que pendant que je lisais ça, je me dis, demeurer seul, rester seul, ce sont des termes qui sont utilisés dans la parole de Dieu, dans beaucoup de circonstances. Le lutter divinement, celui dont je me rappelle le plus, c'est le lutter divinement de Jacob. Jacob est l'un des patriarches, et même le patriarche sur lequel la manifestation de la promesse d'Abraham est établie. Mais Jacob a un parcours assez particulier. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit de tisser des cordes, que nos cordes, c'est lutter divinement. J'ai dit, mince. Je repars réétudier encore le passage où Jacob dit qu'il a lutté divinement. Où l'ange dit que Jacob a lutté divinement contre Dieu. Et je veux comprendre. Et c'est dans Genèse 32. Je vous invite à lire la vie de Jacob. Nous connaissons Jacob et nous savons sa petite histoire. Où il a pris le droit de naissance de son fils. Il a usurpé la bénédiction. Avec l'aide de sa maman qui était déjà au courant des plans de Dieu. Puisque au moment de son accouchement, Dieu lui a parlé. Et Jacob a dû fuir. Devant le courroux de son frère pour aller chez Laban. Et une nuit, il dormait, Dieu lui a fait voir une vision. Une vision du processus du ministère des anges qui montait et qui descendait du ciel et que lui-même il a constaté que c'était là la porte du ciel. Amen. Et que c'était là un lieu, qu'il avait la présence, il a vécu la présence de Dieu là. Mais seulement quand il s'est réveillé. Dans son état de Jacob, dans son état de Féman, il a négocié, il a négocié avec Dieu, il a même négocié. Il a dit, Seigneur, Dieu, Dieu de mon père, Dieu d'Isaac et d'Abraham, si tu me protèges là où je fuis vers là-bas, là, si tu me protèges, si tu fais ceci, si tu m'enrichis, si tu, vraiment je vais te servir. Dieu était en train d'ouvrir les cieux pour lui dire, Jacob, tu es venu jusqu'à moi, reste ici, nous avons des choses à faire. Non, mais Jacob n'a pas vu ça comme ça. C'est comme ça que nous sommes beaucoup. Beaucoup nous avons traversé des moments où nous avons vraiment eu le sentiment que Dieu nous parlait. Où Dieu nous faisait un signe, où Dieu nous tendait une main pour nous appeler. Mais à ce moment, nous sommes tellement préoccupés par nos propres désirata que les réponses que nous donnons à Dieu parfois, nous résistons. Nous passons presque tous par là. Ça doit, personnellement, peut-être ça doit faire partie de notre cheminement. Parce que nous sommes un peu comme des Jacob, nous tous. Alléluia. Il est parti chez Laban. Effectivement, pendant tout son séjour, pendant 20 années, Dieu l'a protégé. Dieu même à la fin l'a enrichi. Mais il était tombé sur un autre retors comme lui. Donc c'était et je te feinte et tu me feintes. Mais 20 ans après, Dieu a dit c'est bon là. Jacob, j'ai assez attendu. Moi je t'attends là-bas sur un plan glorieux. Parce que j'ai promis quelque chose à Abraham. Moi je vais quelque part. J'ai un plan moi. Qui n'a rien à voir avec tes petites magouilles avec Laban là. Ça suffit maintenant, tu te lèves. Et Jacob s'est levé, il a pris sa famille, il a dit à Laban, moi je pars maintenant servir le Dieu de mon père. Et il a pris sa famille pour partir. Donc quand on rentre maintenant dans Genèse 32, on voit ce parcours. Quand il a pris son chemin pour partir, il arrive donc en cours de route, il se souvient qu'il est en train de rentrer comme ça, vers quelqu'un qu'il fuyait. Iseu, son frère. Tu ne peux pas te déployer avec ton bétail, avec ta richesse, avec ta famille et tout ça, et les gens ne savent pas. Donc Iseu sera au courant. dont il faudra le traverser, il faudra traiter cette affaire-là. La parole de Dieu nous dit, si on lit le Genèse 32, la parole de Dieu nous dit qu'il a pris des dispositions même pour envoyer des présents à Isaac. Il était toujours Jacob, donc il voulait corrompre son frère. Il voulait acheter son courroux. Il a envoyé des présents et les serviteurs sont venus lui dire qu'il a dit qu'il ne prend pas, que c'est toi qui l'attends là-bas. Amen. La parole dit que Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Malgré ça, il commença à utiliser son intelligence. Il mettait ses propres stratégies. Je vais diviser ma famille d'un côté de l'autre. Comme ça, s'il vient, il poursuit un côté et nous, moi, je peux fuir par ici. Il a tout essayé. Il a pris tous ses serviteurs. Il leur a donné chacun une partie de sa richesse pour qu'il avance au fur et à mesure, pour inonder Isaac de présents, pour essayer de l'amadouer. Mais chaque fois qu'un serviteur partait, ils ont dit, mets-toi de côté là, c'est lui que j'attends ici. Alléluia, ça ne résolvait rien. Il a fait ça jusqu'à ne plus posséder quoi que ce soit. Ensuite, c'était sa famille. Il a dit, Léa, toi, prends tes enfants, avance là-bas devant. Parce que Jacob avait déjà 11 enfants. Joseph était né, donc avance là-bas avec tes enfants, Léa. Tu es la première là-bas, même si on veut vous tuer là-bas, ça te regarde. Mais par la suite, il a bien fallu qu'il fasse aussi partie Rachel avec son préféré fils Joseph. Et la parole nous dit quelque chose. Voilà. Au verset 23 de ce chapitre 32, il les prit, il leur fit passer le torrent et il les fit passer à tous ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Verset 24. Jacob demeura seul. Nous avons vu ça. Jacob demeura seul. On a vu que la définition de corde, c'était demeurer seul, rester seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Amen. Il lui dit, quel est ton nom? Et Jacob répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes et tu as été vainqueur. Amen, amen, amen. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande de venir à sa rencontre, de le voir face à face et d'être réellement sauvé. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés pour qu'on aille vraiment aller parfaire cette réconciliation avec Dieu notre Père, devant le Père. Mais pour cela, il faut tisser des cordes solides. Pour cela, il faut lutter divinement. Pour cela, il faut prendre le temps de demeurer seul. Vous savez, quand on dit qu'il y a lutte, c'est qu'il y a opposition. Ça veut dire qu'il y avait une opposition entre la volonté de Dieu et la nature de Jacob, la volonté du cœur de Jacob. Il y avait une résistance. Jacob a été tellement plein de choses que Dieu voulait arracher. Mais ça ne se fait pas facilement, mes frères, mes soeurs, je le sais, on est conscient. Donc il y a tout ce temps-là où nous devons consentir à laisser le Saint-Esprit déraciner les choses qui ne conviennent pas à Père et de planter en nous les choses qui correspondent à ce que Père a besoin pour que nous accomplissions des choses avec lui. Ce n'est pas simple. Notre être charnel se refuse, ou plutôt résiste à ça. Mais seulement le cœur de Jacob avait déjà compris qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'est pour ça qu'il est demeuré seul et il entra dans cette lutte. Jacob a compris que non, même si c'est n'importe comment, moi je m'accroche ici, parce que la lutte va finir sur ma victoire. Amen. Donc Dieu demande de lutter divinement avec lui. Nous devons arracher aussi notre cette position-là, Dieu de Dieu. Nous devons laisser, nous avons la grâce en Christ d'avoir le Saint-Esprit de Dieu, qui est capable de nous débarrasser de ses limites. Mais pour ça, nous devons consentir à nous abandonner pour qu'il puisse déraciner toutes ces choses. Dans la prière, dans le jeûne, dans le fait de renoncer aux choses, de renoncer à nous-mêmes, de renoncer aux choses sur lesquelles nous croyons que c'est important dans nos vies. Et laisser Dieu lui-même établir. Quand la parole de Dieu nous dit que l'ange a brisé la hanche de Jacob, la hanche, c'est la partie de notre corps qui assure l'assise sur nos pieds. C'est ce qui confère l'assurance. On a l'impression d'une certaine solidité. C'est notre hanche. Donc quand on casse la hanche, nous boitons. Nous n'avons plus d'équilibre personnel. Nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes parce que nous sommes désormais déséquilibrés. Nous sommes obligés de nous accrocher à autre chose. Et c'est ce que Jacob, lui, l'a fait. L'ange lui dit, laisse-moi partir, le roi. Jacob dit, moi je m'accroche désormais à toi. Tu as même déjà cassé ma hanche. Moi je m'accroche jusqu'à ce que tu m'aies béni. Vous savez, la bénédiction là. Oh my God. La parole ici dit que jusqu'à ce que tu m'aies béni, parce que les termes français sont même limités. La bénédiction spirituellement, si on veut regarder les mots, c'est quand on déclare des choses. Et il va bénir Jacob puisqu'il va déclarer son changement de nom. Mais la bénédiction, le terme, quand Dieu dit il est béni spirituellement en hébreu, ça veut dire il les a oint d'huile. C'est-à-dire Jacob est en train de dire, ma condition va changer aujourd'hui. Je rentre dans les pleins desseins de Dieu. Tu m'établis là où Dieu voulait que je sois. Il s'accroche pour recevoir l'onction royale avec laquelle il devait rentrer dans le plan divin. Il s'accroche parce que sa condition doit changer. Des paroles de bénédiction doivent être libérées sur lui. Amen. Et c'est ça aussi que nous recherchons. Lorsque nous demeurons seuls avec l'Éternel, lorsque nous luttons divinement pour le changement de nature, que nous sollicitons dans notre cœur que le Saint-Esprit de Dieu fasse ce qu'il y a à faire afin que nous devenions une nouvelle personne, que nous soyons transformés par l'intelligence de sa parole et que nous rentrons dans la plénitude de qui nous devons être en Jésus-Christ. Que nous puissions nous rapprocher comme ça, dans la sainteté de Dieu. Alléluia. Pour un accomplissement avec le Père. Ça se trouve dans le demeurer seul et lutter divinement. Alléluia. C'est ça, fabriquer des cordes solides que rien ne peut rompre. Si nos cordages sont faits avec ça, la tente que nous bâtissons avec l'Éternel est une tente vraiment de grâce. Amen, amen, amen. Il a dit, désormais tu n'es plus Jacob. Ça veut dire que tout le faux, le pernicieux, le tordu qui avait en toi, c'est terminé. Tu as vaincu ta bataille. Tu as gagné. Dieu a vu l'état de ton cœur, l'état de sa condition, l'état de ton engagement en lui et définit que il change ton nom. Tu deviens véritablement une nouvelle personne aux yeux de Dieu. Tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui a été vainqueur. Alléluia. Donc celui qui rentre dans la plénitude de l'accomplissement des plans que Dieu avait pour lui depuis le commencement. Amen. Et c'est ça que Dieu attend de nous tous. Avant de courir pour aller accomplir les choses, faire les choses, machin, parce que Jésus-Christ, on va nous dire, Jésus-Christ nous a dit, allez faire des nations, des disciples, allez délivrer les démons. Mais tu commences par aller, en suivant Jésus, à aller devant le Père. Tu commences par aller devant le Père dans sa sanctification, recevoir ce don de grâce pour l'accomplissement. Celui qui ne marche pas vers Dieu d'abord ne pourra rien accomplir de l'autre côté. Amen. Et c'est ça la notion de corde. Et c'est ça la notion de lutter divinement, demeurer seul. Et ce demeurer seul là, c'est vraiment seul. C'est le temps que tu passes avec Dieu, dans ton intimité. Il n'y a pas deux personnes dans le demeurer seul. Que ce soit dans l'étude de la parole de Dieu, que ce soit dans les prières, que ce soit dans les jeûnes, il y a des moments où on fait des choses en confraternité. Il y a des moments où on s'assemble pour louer. Mais il y a des moments, et ça, c'est le secret de la croissance spirituelle, de l'intimité avec Dieu. C'est seul à seul. Il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Tu peux passer la vie à aller à l'église pour prier même comme tu veux, en groupe avec les autres. Ce n'est pas le face à face avec Dieu. Ça se passe dans les temps seuls que tu prends. Alléluia. Que tu façonnes cela toi-même. Et ce faisant, tu es en train de tisser tes cordages. Tisser tes cordages. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh my God. Après que tu en aies des cordes, après qu'on ait tissé ces cordages, Dieu nous dit, allonge-les maintenant. Allonge ces cordages. Alléluia. Allonge les cordages. Mes sœurs, mes frères. Voilà, rien que comprendre la notion de corde et de cordage, ça nous a pris une heure. Le prochain message, nous allongerons nos cordages. Et nous fermerons nos pieux. Parce que même ce message-là, comme il doit être changé, nous apprendrons ce que sont les pieux. Et ensuite, nous verrons la notion de l'affermissement des pieux. Parce que c'est le fondement même de ce que nous devons savoir. C'est la seule chose que Dieu nous demande dans tout ce processus. Tous les autres versets, vous verrez que c'est Dieu qui vient vers nous. Mais là, il nous demande que vous-même, c'est ce que nous-mêmes nous devons faire. Donc nous avons à comprendre ça. Parce que quotidiennement, c'est ce que Dieu veut que nous fassions dans notre marche pour l'accomplissement avec lui. Amen. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Au prochain message, demeurez en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Au nom puissant de Jésus. Amen.